Aujourd'hui, nous allons parler du proverbe bien connu. Après l'effort, faux ! Enfin, sérieusement, c'est du mensonge tout ça. Après l'effort, qu'est-ce qu'il y a ? Encore de l'effort, encore de l'effort. Il y a des choses dans nos vies qui demandent que nous mobilisions toute notre énergie pour elles. Un examen, la préparation d'un mariage, un entretien d'embauche, des choses où vraiment on a besoin que ce soit qu'on mobilise toute notre énergie pour elles. Et alors qu'on se dit, une fois que ce sera passé, tout ira mieux. On découvre avec stupeur qu'après l'examen, il y a les autres études, qu'après la préparation du mariage, il y a le mariage, et qu'après l'entretien, il y a le travail. Parce que souvent, après l'effort, il y a encore de l'effort. Et c'est sans doute une réalité que vous avez déjà vécue aussi dans votre vie chrétienne. Vous vous êtes dit, le plus dur, c'est de devenir chrétien. Après, ça roule. Et vous découvrez que non, ça ne roule pas. Et qu'il faut ajouter à l'effort de la foi encore d'autres efforts. Et c'est pour cela que la persévérance est une qualité qui est tellement mise en avant dans tout le Nouveau Testament. Ce qui m'amène à la question de ce matin. Êtes-vous des personnes persévérantes ? J'ai entendu un « non ». Parce que travaillant dans les GBU depuis 10 ans, je peux vous dire, et je veux pas créer de l'angoisse, mais je peux vous dire que j'ai vu beaucoup, beaucoup d'étudiants qui n'ont pas fait l'effort, qui n'ont pas été persévérants, et que quelques mois, quelques années après leur confession de foi, ils ont juste tout lâché. Comment réagir face à cette réalité ? Qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui va faire l'effort et une qui ne va pas le faire ? Comment être sûr que vous ne serez pas de ceux qui jettent l'éponge ? Et que dans 5 ans, 10 ans, on nous dira « Ah, tu te rappelles de machin à fond la forme ?» En fait, il est plus chrétien. On entend ça en tant qu'équipier, régulièrement. Autant vous dire que c'est à chaque fois un coup de poignard dans le bide. C'est le sujet de ce matin, et je vous promets que ce ne sera pas totalement déprimant. Après l'effort, il faut encore de l'effort, et c'est exactement la découverte que font les Israélites une fois qu'ils sont installés en Canaan. Alors qu'ils pensaient enfin pouvoir se reposer dans le pays promis par Dieu par l'intermédiaire de Moïse, voilà qu'ils doivent encore faire des efforts. Ce qui m'amène à ma première partie. La promesse enfin réalisée ! Ou presque ! Mais d'abord, quelques rappels. Dans les chapitres 1 à 12, on a des récits de batailles, de victoires, de défaites, de peurs surmontées, etc., etc. Et finalement, l'entrée enfin dans le pays promis se fait finalement hyper rapidement. Enfin, on attendait cela depuis Genèse 12. Ta descendance aura un pays, etc. Et enfin, une patrie, le réconfort après tous ses efforts. Et à partir du chapitre 13, jusqu'à la fin de Josué, on voit le peuple profiter de l'accomplissement de la promesse, avec des listes qui établissent quel territoire appartient à qui. Ça, c'est le moment où vous avez dit « Je vais sauter des lignes pour aller plus vite ». Voici... On voit pas grand-chose, mais c'est pas grave. Normalement, si vous avez une grosse Bible, vous avez quelque part cette carte-là. Nous avons 13 tribus à ce moment-là. Pourquoi 13 ? Parce que Jacob, le papa de tous ces enfants qui font les tribus, avait adopté Éphraïm et Manassé, les enfants de Joseph, ce qui fait que de 12 fils, il est passé en fait à 13 fils, parce que du coup, Joseph compte plus vraiment. La part de Joseph est double, puisqu'il y a Éphraïm et Manassé. Donc, nous avons 13 tribus. Nous avons 2 tribus et demie qui sont de l'autre côté du Jourdain. Ruben, en bas, là, dans un violet moche, Gad, et en haut, la moitié de Manassé, qui est appelée sur la carte Manassé Est. Et donc nous avons les 2 tribus et demie qui sont restées à l'est du Jourdain, nous avons la tribu de Lévi, qui n'a pas de terre, je pense normalement vous avez déjà tous entendu parler de ça quelque part dans la semaine, parce que c'est la tribu qui est au service du temple, et donc les Lévites vivent dans des villes, un petit peu partout, sur les territoires des autres tribus. Ils ne vivent pas de leurs travaux agricoles, puisqu'ils n'ont pas de terre, mais ils vivent de la dîme qui est donnée au temple par les autres tribus. Ils récupèrent la dîme du bétail et de l'agriculture qui est donnée aux autres tribus. Donc le territoire conquis est séparé entre 9 tribus et demie, car vous avez compté, et vous êtes arrivé à ce chiffre aussi, et cela se fait par tirage au sort. C'est pas, on n'a pas réfléchi stratégie, on fait ça tirage au sort. Et le livre nous notifie bien quelle tribu, à quel territoire, en nous disant des frontières avec des noms qu'on connaît pas, donc ça nous parle pas, mais avec la carte, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Alors pour nous, la lecture de ces listes qu'on a au chapitre 13 à 21, elle est pas vraiment passionnante. Grandement, nous nous ennuyons. Mais il faut comprendre que ça a un sens très très fort pour les Israélites. Elles sont la preuve que Dieu a accompli ses promesses et le rappel que Dieu est bon de leur donner cette terre. Le rappel que c'est cette terre et que c'est pour eux. Et pour eux, c'est un peu une espèce de jubilation, quoi. À chaque nouvelle ville, oh, c'est Dieu qui a accompli sa promesse, c'est Dieu qui a accompli sa promesse. Cette liste des territoires par tribu se termine par une note triomphante que vous avez dans Josué 21, et que je vous propose de lire avec moi. C'est juste deux versets. Josué 21, les versets 43 et 45. C'est comme ça que se termine la liste un peu longue et légèrement rébarbative de tous les territoires. Josué 21, verset 43. L'Éternel donna aux Israélites tout le pays qu'il avait promis par serment à leurs ancêtres. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda de vivre sans être inquiétés par aucun ennemi autour d'eux, comme il l'avait promis par serment à leurs ancêtres. Il leur donna la victoire sur tous les ennemis. Aucun d'eux ne put leur résister. Ainsi, toutes les promesses de bienfaits que l'Éternel avait données au peuple d'Israël s'accomplirent. Aucune d'elles ne resta sans effet. Dieu a tout accompli. Toutes les promesses sont accomplies. Les territoires sont donnés et les ennemis ne sont pas un problème. Enfin, les ennemis ne sont pas censés être un problème. Parce que, au milieu de cette liste, peut-être c'est les moments où vous êtes sortis de votre torpeur quand vous avez lu, nous avons trois passages narratifs. En plein milieu de la liste, on a trois moments où on nous raconte des histoires. C'est Josué 14, Josué 15 et Josué 17. Et ces trois passages narratifs mettent en valeur le fait que, ben, peut-être que quand même les ennemis, c'est encore un petit peu un problème. Et je vous propose de regarder ces trois passages narratifs ensemble et c'est là-dessus que portera la prédication. Et donc, on va commencer par Josué 14. C'est moi qui vais lire aujourd'hui. Josué 14, nous allons lire tout le chapitre. Voici les territoires que les Israélites reçurent en possession dans le pays de Canaan. Le prêtre Éléazar et Josué, fils de Noun, assistaient des chefs de groupe familial des tribus israélites, les leur attribuèrent. Cette répartition des terres entre les 9 tribus et la demi-tribu se fit par tirage au sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Car Moïse avait déjà attribué leur patrimoine aux 2 tribus et à la demi-tribu à l'est du Jourdain, et il n'en avait pas destiné aux Lévites, car les fils de Joseph, Manassé et Éphraïm, formaient 2 tribus. C'est pourquoi ils n'avaient pas attribué de patrimoine aux Lévites dans le pays, sinon quelques villes avec leurs terres attenantes pour y habiter, y faire vivre les troupeaux et y conserver leurs biens. Ainsi les Israélites procédèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse pour le partage du pays. Des membres de la tribu de Juda vinrent trouver Josué à Gilgal. Caleb, le fils de Yéphouné, le Kénizien, lui dit « Tu sais que l'Éternel a dit à Moïse, l'homme de Dieu, à mon sujet et à ton sujet, lorsque nous étions à Kadesh-Barnéa. J'avais 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadesh-Barnéa pour explorer ce pays. À mon retour, je lui ai fait un rapport en toute bonne conscience. Alors que les hommes qui étaient venus avec moi ont découragé le peuple, j'ai été pleinement fidèle à l'Éternel, mon Dieu. Ce jour-là, Moïse fit ce serment. Assurément, ce pays que tu as parcouru t'appartiendra ainsi qu'à tes descendants pour toujours parce que tu as été pleinement fidèle à l'Éternel, mon Dieu. Effectivement, il y a 45 ans depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse pendant qu'Israël voyageait à travers le désert et il m'a conservé en vie selon sa promesse. J'ai aujourd'hui 85 ans et je suis aussi robuste qu'à l'époque. Moïse m'a envoyé en mission. J'ai autant de force qu'alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Maintenant, donne-moi cette contrée montagneuse que l'Éternel m'a promise à ce moment-là. À l'époque, tu as appris que les Anakim y habitaient dans de grandes villes fortifiées. Si l'Éternel m'assiste, je les en déposséderai comme il l'a affirmé. Josué bénit Caleb, fils de Yéphouné, et lui donna la ville d'Hébron pour patrimoine. C'est pourquoi Hébron appartient encore aujourd'hui aux descendants de Caleb, fils de Yéphouné, le Kénizien, parce qu'il avait été pleinement fidèle à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Autrefois, Hébron s'appelait Kiryat Arba, du nom du plus grand des Anakim. Alors, la guerre cessa dans le pays. Ça, c'est la première notice narrative. On a une autre notice narrative dans Josué 15 qu'on ne va pas lire. Elle raconte comment Caleb prend possession de ça, de son territoire, comment est-ce qu'il va se battre contre les Anakim et gagner. Et on voit que non seulement lui est courageux, mais sa fille et son gendre sont aussi courageux. Je vous invite à lire ça un autre moment. Enfin, vous l'avez sans doute évidemment tous vu. Ce qui nous amène à la troisième notice narrative qui se trouve... Ah, je vous avais mis les... J'avais oublié. Hop. Hop. Ce qui nous amène à la troisième notice narrative qui se trouve en Josué 17, qui est beaucoup plus courte et beaucoup plus triste, les versets 14 à 18. Les descendants de Joseph vinrent se plaindre à Josué en disant « Pourquoi nous as-tu attribué par le sort seulement une part du pays, alors que l'Éternel nous a tellement bénis jusqu'à présent et que nous sommes devenus très nombreux ?» Josué leur répondit, « Si vous êtes tellement nombreux, et si la région montagneuse d'Éphraïm ne vous suffit pas, allez donc défricher du terrain dans la forêt appartenant aux Phérésiens et aux Réphaïm. » Les fils de Joseph répliquèrent, « Il est vrai que la région montagneuse ne nous suffit pas, mais tous les Cananéens qui habitent dans les plaines de Beth-Shéan et les villes voisines, ainsi que ceux dans la vallée de Jisréel, possèdent des chars de fer pour combattre. » Alors Josué dit aux gens d'Éphraïm et de Manassé, descendants de Joseph, vous êtes un peuple nombreux et fort. Vous ne serez pas réduits à un lot unique. Vous posséderez toute la région montagneuse couverte de forêts. Vous la défricherez et vous l'occuperez jusqu'à ses limites extrêmes. Vous en déposséderez les Cananéens malgré leurs chars de fer et malgré leur puissance. La conquête du pays est faite, mais il reste beaucoup de villes à conquérir. Après l'occupation doit arriver la consolidation. Une consolidation qui doit être faite par les tribus elles-mêmes, chacune, entrant dans son territoire, dans son héritage que Josué, à la suite de Moïse, leur a désigné. Et ce travail qui reste à effectuer est le nœud des deux scènes à laquelle nous assistons, d'une part celle avec Caleb de la tribu de Juda, et d'autre part avec celle des descendants de Joseph, Éphraïm et la moitié de Manassé. Je propose qu'on regarde ces deux attitudes. L'attitude de Caleb d'un côté, ou celle des descendants de Joseph de l'autre côté. Au chapitre 13, on a beaucoup d'espoir quant à la consolidation. Déjà à cause de ce qu'on vient de lire dans Josué 21, Dieu a tout accompli. Comment pourrait-il se planter? Et puis on a vu dans les 12 premiers chapitres qu'ils étaient courageux dans la bataille. Ils ont appris la confiance en Dieu avec l'épisode de Jéricho. Dieu a dit de tourner autour de la ville. On se sent un peu ridicule, un peu vulnérable, mais on le fait quand même. Ils ont appris l'obéissance avec la défaite à Haï causée par le péché d'Akan. On a compris que si on veut profiter des promesses de Dieu, il faut obéir à Dieu. Ils sont entrés dans le pays par la foi, par l'obéissance et par le courage. Et alors qu'on s'attend à ce qu'ils consolident la conquête par la foi, par l'obéissance et par le courage, en luttant contre les peuples en place, on découvre que ce n'est pas le cas pour la plupart d'entre eux. Les deux notices narratives qu'on a lues font un zoom sur les tribus stars, Juda et Éphraïm. Pourquoi sont-elles des tribus stars? Peut-être vous découvrez que Juda et Éphraïm sont des tribus stars. Il y a plusieurs raisons. Ce sont les tribus stars parce que ce sont les deux tribus qui sont les deux tribus issues des deux aînés. Juda et Joseph sont les deux aînés. Chacun, on pourra en parler si vous comprenez pas de quoi je parle, mais Jacob a désigné deux aînés, Juda et Joseph. Donc ce sont les tribus des deux aînés. C'était deux tribus qui étaient grandes avec des ensembles militaires forts. Ce sont aussi les deux tribus des deux stars. De la conquête, à savoir Caleb qui est de la tribu de Juda et Josué qui est de la tribu d'Éphraïm. C'est donc pour cela que ce livre présente d'abord l'héritage de ces deux tribus. Il donne d'abord la séparation pour la tribu de Juda, puis la séparation pour la tribu d'Éphraïm, et les autres territoires ne sont présentés qu'au chapitre 18 et 19. Et avec ces deux tribus, nous voyons deux attitudes très différentes face aux efforts qu'il faut encore fournir. Première attitude, celle de Caleb. En 14, verset 6, on voit que Caleb va voir Josué et lui rappelle ce qu'ils ont vécu alors qu'ils étaient encore de l'autre côté du Jourdain et qui explique qu'aujourd'hui ce sont des stars. Cette histoire, je pense que vous la connaissez, on en a déjà parlé, elle est racontée en nombre 13 et 14. Moïse avait envoyé 12 espions en Canaan, un par tribu, pour faire un état des lieux de ce qu'il fallait conquérir. À leur retour, 10 d'entre eux reviennent complètement déprimés et défaitistes en disant « c'est mort, c'est même pas la peine d'y aller, on va se faire ravager, etc. » Mais deux espions, Caleb de la tribu de Juda Josué, de la tribu d'Éphraïm, reviennent en disant « Mais non, en fait, Dieu nous a livré ce pays, on va y arriver, c'est sûr, etc. » Ils ont un rapport très différent des autres. En récompense pour cela, Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, leur avait promis des terres particulières en plus, pour eux et pour leur famille. Caleb vient donc récupérer ce qui lui a été promis par Moïse. Il sait qu'il va devoir se battre en 14-12, il a conscience qu'il va falloir chasser les habitants du territoire qui lui est donné, mais il est prêt à le faire, et le chapitre 15 nous raconte comment est-ce qu'il le fait. Ça, c'est l'attitude de Caleb. Deuxième attitude, celle des descendants de Joseph. Donc c'est Éphraïm et la moitié de Manassé, je vais les appeler maintenant les Joséphites pour que ce soit plus court. En 17-14, ils viennent se plaindre à Josué de la part qui leur a été donnée, arguant le fait qu'elle est trop petite parce qu'ils sont trop nombreux. Les Joséphites estiment que le territoire qu'ils ont n'est pas ce qu'il leur faut. On a dû se gourer dans le tirage au sort, il y a un problème, il leur faut un truc plus grand. Et on voit quand même, à la lecture, que ce sont un peu les rois de la manipulation. Ils opposent l'attitude de Josué, qui leur a attribué une terre trop petite, à l'attitude de l'Éternel, qui les a rendus nombreux. Sous-entendant que quand même Josué s'opposait un petit peu à la volonté de l'Éternel en leur donnant cette partie de forêt trop petite. Sauf que la part leur a été en fait attribuée, je vous rappelle, par tirage au sort, et donc c'est bien l'Éternel qui leur a attribué cette part. Et Josué ne se laisse pas manipuler. Il leur propose une solution qui est en fait ce que l'Éternel avait dit depuis le début, et ben agrandissez votre territoire vers la forêt. Si vous êtes pas assez nombreux, et ben poussez vers la forêt, s'il n'y a pas de place dans la ville, poussez vers la forêt qui vous appartient aussi. Et c'est là, à la réponse des Joséphites, qu'on voit quel est le vrai problème. Mais c'est qu'en fait, il y a des ennemis dans la forêt. Nous, on n'a pas très envie de se battre, en fait. On avait juste envie de se poser, d'élever des chèvres et de faire du fromage. On n'avait pas vraiment prévu qu'il allait falloir se battre contre des gens. Et la notice narrative se termine par Josué tenant ferme sur ses positions, mettant tout en présent, en disant, en fait, non, vous allez faire ça. Il va falloir que vous le fassiez, parce que c'est la seule solution. Il va falloir que vous fassiez des efforts. Et avec Dieu, vous aurez la victoire. Mais faites des efforts. Deux réactions face à une même réalité. Deux réactions totalement différentes face à une même réalité. Qu'est-ce qui explique la différence? Centré sur soi ou centré sur Dieu? Caleb vient demander un héritage parce que Dieu a promis, Dieu a parlé. Dieu a dit « ça, ce sera à toi » et Caleb vient le demander. Les Joséphites critiquent ce que Dieu a donné. Dieu n'a pas donné ce qu'il fallait. Il fallait donner autre chose. Ils veulent changer ça. Parce que quand Caleb rappelle son attitude lors de la mission, on a un peu l'impression qu'il s'envoie des fleurs, hein. J'ai été fidèle, moi j'ai fait tout bien, etc. Il n'est pas, en fait, en train de s'envoyer des fleurs. Il rappelle ce que l'Éternel a dit. Ce sont les promesses de Dieu qu'il veut mettre en valeur. Ainsi, alors que Caleb se lance dans la conquête avec courage, parce qu'il sait qu'avec Dieu tout est possible, les Joséphites sont paralysés par l'idée d'être attaqués et vont se réfugier dans les jupes de leur mère, qui est la Josué, et tentent d'essayer de trouver une solution qui va les empêcher d'avoir à lutter. Une façon d'être dans le pays promis sans faire d'efforts. Quelle différence d'attitude entre le courage de Caleb et la paralysie des Joséphites. Je vais raconter ma vie maintenant. Je me suis convertie, pas toute ma vie quand même, je me suis convertie à 17 ans, mon année terminale, et après ma conversion, voilà comment je voyais le monde. Au milieu, moi. Ma famille, mes amis, mon église, mes projets. Et autour de moi, Dieu. Dieu qui m'entoure de sa présence bienveillante, qui m'aime, qui a donné sa vie pour moi et à qui je peux remettre ma famille, mes amis, mon église, mes projets. Et je lui demande un truc pour ma famille et puis il me répond. Et je lui demande un truc pour mes projets et il me répond, etc., etc. Je peux lui demander d'utiliser sa toute puissance et sa souveraineté pour intervenir dans les choses de ma vie et permettre que mes projets se réalisent, que je sois bien dans ma famille, que je sois bien dans mon église, etc., etc. Je suis le centre du monde et Dieu tourne autour de moi. Quelques années après, grâce à un week-end GBU, lors d'une intervention d'une personne devant sur Corinthiens, je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté de la plaque, que c'était pas ça la vie chrétienne. Mais voilà comment la Bible voit le monde. Au milieu, c'est Dieu. Et les choses de sa vie, sa famille, ses amis, son église, ses projets. Et autour, moi. Moi, qui par amour, par le sacrifice de son fils, suis intégré à sa famille, à son église, à ses amis, à ses projets. Dieu est le centre du monde et moi, je tourne autour de lui. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Bah, d'une part parce que j'aime bien raconter ma vie, mais aussi parce que c'est une leçon qui a changé radicalement ma vie, mais surtout parce que c'est justement le conflit de vision du monde qu'on a ici entre Caleb et les Joséphites. Les Joséphites sont centrés sur eux. Leurs besoins, ou même leurs prétendus besoins, certains commentateurs pensent qu'en fait ils n'étaient pas si nombreux qu'ils le prétendent, leurs besoins, leurs angoisses, leurs privilèges, on est quand même la tribu du chef, donc on va aller voir le chef, et le chef il va dire « bah ouais, bien sûr, c'est la famille, hop hop hop, je vous donne des terres en plus ». C'est cela le centre de leur monde. On est nombreux, on est la tribu de Josué, on n'a pas eu suffisamment de privilèges, etc. L'important c'est eux. Dieu est un satellite, un beau satellite, un puissant satellite, mais un satellite quand même. Caleb, lui, il est centré sur Dieu. Il désire les choses non pas parce qu'il estime les mériter ou je ne sais quoi, mais parce qu'il sait que c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. Ce qui est au centre, c'est la volonté de Dieu, ses projets, ses promesses. Dieu n'est pas là pour le servir. Il est là pour servir Dieu. Le problème des Joséphites, comme celui de la plupart des tribus, même la tribu de Caleb, en fait, qui ne finira pas le travail, qui ne luttera pas contre ses ennemis, c'est qu'ils ont arrêté d'être centrés sur Dieu. Une fois dans le pays, ils ont pensé qu'ils devaient continuer de leur propre force. Ils ont bien vu qu'ils étaient entrés dans le pays par des miracles, je pense qu'avec Jéricho, c'était difficile de passer à côté, mais une fois installés dans le pays, ils ont pensé qu'ils devaient continuer de leur propre force, et comme c'est trop dur pour eux, alors ils ont échoué et ils ont commencé à faire des compromis avec les peuples en place. Parce qu'ils cherchaient la paix et parce qu'ils étaient fatigués de lutter. Mais le vrai repos, c'est celui qui arrive quand la lutte est achevée. Et ni pour les tribus d'Israël à l'époque, ni pour nous aujourd'hui, la lutte n'est pas achevée. D'ailleurs, le repos, ils ne l'auront pas. Si vous lisez le livre des juges, vous verrez qu'ils passent leur temps à se faire envahir et que la notice triomphante de Josué 21 ne s'est en fait jamais réalisée. Parce qu'ils n'ont pas fait ce que Dieu demandait, parce qu'ils n'ont pas achevé la conquête, parce qu'ils ont commencé à adorer le Dieu des peuples cananéens avec qui ils se sont installés. Ils n'ont pas compris que ce qui était vrai pour l'entrée dans la terre promise, la foi, l'obéissance et le courage, reste vrai une fois qu'ils sont dans la terre promise. Ce qu'ont vécu les Israélites, et particulièrement les Joséphites dans le texte qu'on a lu, c'est une chose qui nous menace aussi. Manquez-vous à ce point d'intelligence? Après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, est-ce en comptant sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection? Ça, c'est ce que Paul disait aux Galates, en Galates 4, qui croyaient que même s'ils étaient devenus chrétiens par grâce, ils devaient maintenant respecter les lois rituelles de l'Ancien Testament pour être en règle avec Dieu. Ils sont devenus chrétiens en croyant et en obéissant, et d'un coup, ils commencent à vouloir faire les choses en comptant non pas sur la grâce de Dieu, mais sur leur possibilité d'accomplir la loi, de respecter la loi, sur leur propre force, sur leurs propres critères. Et d'un coup, ils se remettent au centre. Naturellement, on est poussé vers l'autonomie vis-à-vis de Dieu. Naturellement, on est poussé à se remettre au centre. Moi, j'aimerais bien vous dire que quand j'avais 22 ans, à l'occasion de ce week-end GBU, je suis passée du schéma 1 au schéma 2. Je pense que je suis passée du schéma 1 au schéma 2 le temps d'une soirée. Puis je suis repassée au schéma 1 et j'ai dû lutter. Et depuis, je lutte sans cesse parce que je suis globalement dans le schéma 2. Puis je reviens au schéma 1 et je dois revenir au schéma 2, etc., etc. Je passe mon temps à essayer de me décentrer de moi-même pour me recentrer sur Dieu. Naturellement, on a envie de s'en sortir seul. On a envie de dépendre de nos seules envies, de nos seuls critères de réussite. Mettre Dieu au centre, ça demande des efforts. Un effort régulier et un effort permanent. Pour nous, la lutte n'est pas achevée. Elle ne le sera qu'au retour du Christ où on profitera vraiment du réconfort. Ça ne nous empêche pas déjà de vivre des temps de réconfort maintenant, heureusement. Mais ce réconfort se vit dans un contexte où la lutte n'est pas achevée. L'ancien secrétaire général des GBU disait souvent « La vie chrétienne, c'est émerveillement, combat. » On ne peut pas avoir l'émerveillement sans le combat. On ne peut pas avoir le combat sans l'émerveillement. Émerveillement, combat. Jésus n'est pas encore revenu. Et donc, il y a encore du travail à faire. Conclusion. Mais je vais boire. Ah! Non mais je dis ça, mais à chaque fois ma conclusion est hyper longue et je vais quand même finir. Quand Comment tirer des leçons des attitudes de Caleb et des Joséphites sur la façon de lutter? Il n'y a qu'une chose à faire pour continuer à faire des efforts, c'est de mettre Dieu au centre. Trois choses pour vous aider, pour nous aider à mettre Dieu au centre. Issue principalement du texte et un petit peu... Non, issue du texte, ça va, j'allais dire issue de ma vie aussi, mais non, c'est plus ce texte, on est rassurés. La première chose, c'est s'attacher à ses paroles, à ses promesses. Cela donne la direction de la lutte, parce qu'on peut aussi vivre une vie chrétienne de combat, mais en fait, on se bat contre des trucs, en fait, on n'est pas censé se battre. S'attacher aux paroles de Dieu et aux promesses, ça donne la direction de la lutte, cela donne du courage. Si Dieu a promis, si Dieu a dit, alors allons-y, parce qu'on sait qu'il peut y avoir la victoire. Ça nous donne l'assurance que nous dépensons notre énergie de façon efficace. Parce que nous savons que les projets de Dieu sont toujours, plus ou moins à long terme, couronnés de succès. Les projets de Dieu sont toujours couronnés de succès. Ainsi, je fais des efforts de sanctification, malgré le fait que j'ai parfois l'impression que la lutte contre le péché est au-dessus de mes forces. J'ai régulièrement l'impression que c'est au-dessus de mes forces. Mais je fais quand même des efforts, parce que je crois que si Dieu a dit qu'on pouvait grandir en sanctification, il l'a pas juste dit parce qu'il aime bien dire des trucs, en fait c'est pas vrai, et que comme ça, ça nous met la pression. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Parce que je sais que cela tient à cœur à Dieu, et qu'il a promis de finir en moi le travail qu'il a commencé. Alors je fais des efforts, même dans des moments où j'ai l'impression que je peux pas gagner. Et je me dis en fait, si Dieu est Dieu, et si ce qu'il a dit est vrai, alors je peux gagner. Ainsi, je m'investis dans l'Église et dans les GBU, malgré le fait que ces deux institutions magnifiques ne sont pas toujours à la hauteur de mes attentes. Parce que Dieu a promis d'édifier son Église, que toute l'énergie que nous dépensons dans le service, ce n'est pas de l'énergie perdue, même si on ne voit pas les fruits. Même si on ne voit pas les fruits, toute l'énergie qu'on passe dans les projets de Dieu, ce n'est pas de l'énergie perdue. S'attacher aux promesses de Dieu et en faire le moteur de nos vies. C'est là-dedans qu'on doit dépenser de l'énergie. Deuxième proposition. Lui faire confiance... Non, allez, je rechange. Deuxième ordre. Lui faire confiance dans ce qu'il nous donne. C'était le problème des Joséphites. Ils pensaient que Dieu ne leur avait pas donné ce qu'il leur fallait pour survivre, pour être bien. Ils pensaient que, voilà, Dieu s'est trompé, il fallait, pour qu'on soit vraiment heureux, il aurait fallu qu'on ait une plus grande terre. Mais c'est faux. C'est faux. Vous avez aujourd'hui tout ce qu'il vous faut pour remporter la lutte. C'est cela la grâce de Dieu qui nous équipe. Vous pouvez pas dire, oui mais aussi si j'y arrive pas, c'est parce que j'ai pas ça, c'est parce que j'ai pas ça, c'est parce que j'ai pas ça, c'est parce que j'ai pas ça. Dieu vous donne exactement tout ce dont vous avez besoin pour remporter la lutte. La grâce de Dieu vous équipe. Jésus nous a donné le Saint-Esprit qui nous conseille, qui nous donne de la force, de l'intelligence et le courage de faire la volonté de Dieu. Ce que Dieu nous donne est bon et suffisant. Ce que Dieu vous donne est suffisant. Et là, j'aimerais que vous pensiez à tous les trucs que vous pensez qui vous manquent. Ce que Dieu vous donne est suffisant. Et les obstacles qui sont devant vous sont surmontables parce que vous avez tout en Christ. Vous avez tout en Christ. Il faut arrêter de jouer les victimes. Oui, mais c'est parce qu'on est trop nombreux, on est trop timide, on est trop émotif, on est trop fatigué, on sait trop pas parler en public, on sait trop, etc., etc., etc. Il faut arrêter, je suis un peu violente là, mais voilà, il faut arrêter de jouer les victimes et de s'attacher à ses promesses. Si Dieu dit que vous pouvez être un témoin pour vos amis, vous serez pas tous des témoins de la même manière, mais c'est que vous pouvez l'être. Si Dieu dit que vous pouvez remporter la lutte contre le péché, c'est que vous pouvez le faire. Si Dieu dit qu'il vous a sauvé pour des bonnes œuvres, c'est que vous pouvez faire les bonnes œuvres. Ayez confiance dans le fait qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Troisième chose, savoir que Dieu est toujours avec nous. C'est cela, continuer par l'esprit. C'est savoir que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. C'est en Christ, par Christ, avec Christ, que nous sommes devenus chrétiens. Et c'est aussi en lui, par lui et avec lui que nous continuons notre vie chrétienne. Et cela est rendu possible par le fait que Dieu nous a envoyé son esprit pour nous faire vivre, pour faire vivre en nous tout ce qu'il est et qu'il nous a donné sa parole pour nous guider. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est-il le centre de votre vie ou est-il un joli satellite? Je voudrais que vous preniez juste quelques secondes pour répondre honnêtement à cette question. Vous n'êtes pas obligé de le crier haut de voix, mais... Dieu est-il le centre de votre vie ou est-il un joli satellite? Êtes-vous au service de Dieu ou Dieu est-il à votre service? Faire de Dieu le centre de votre vie, c'est la clé pour continuer dans la vie chrétienne malgré les difficultés. C'est la clé pour que moi j'apprenne pas, dans 5 ans, dans 10 ans, que l'un d'entre vous a lâché la foi. S'attacher aux promesses de Dieu, lui faire confiance pour ce qu'il nous donne, savoir et vivre le fait qu'il est toujours avec nous. Mettre Dieu au centre. Alors oui, après l'effort, il y a encore de l'effort. Mais après la grâce, il y a encore de la grâce. Après la grâce, il y a encore de la grâce. Et il y aura encore de la grâce. Et encore de la grâce, à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Nous avons fait de Dieu le centre de notre vie. Et cela nous a été donné par grâce. Ne faisons pas l'erreur de nous remettre au centre pour la suite de la lutte. Tant que Jésus n'est pas revenu, la course n'est pas finie. Mais cette course se fait par la grâce. Il nous faut faire encore l'effort, non pas de faire les choses bien, mais faire l'effort de toujours compter sur la grâce de Dieu. Faire l'effort de mettre Dieu au centre.